Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 15 février, ravi de vous retrouver et en bonne compagnie afin de revivre 7 jours d'événements sur la planète avec évidemment les reportages de la rédaction. En bonne compagnie, car Yann Mince est avec nous. Je rappelle qu'il est spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives Économiques. Avec lui, nous allons partir pour la Syrie, la Chine, l'Allemagne, le Cameroun ou bien encore le Mali. Et avant d'écouter Yann, partons tout de suite pour les États-Unis après les primaires démocrates de New Hampshire cette semaine et la victoire de Bernie Sanders que vous venez d'écouter. Reportage mardi d'Éric DeSalve.
Let me say tonight that this victory here is the beginning of the end for Donald Trump.
Cette victoire, c'est le début de la fin pour Donald Trump, lance Bernie Sanders à ses supporters en liesse à Manchester. Bernie bat Trump, chante la foule en chœur pour fêter la consolidation à 78 ans du vétéran de l'aile gauche américaine dans son statut de favori pour la nomination démocrate. Le sénateur du Vermont devance Pete Buttigieg de peu, ce centriste de 38 ans que ses sympathisants surnomment Wall Street Pete, car trop à droite à leurs yeux. Plus de 25% des voix pour Sanders, 24% pour Buttigieg, mais les deux rivaux terminent pourtant avec le même nombre de délégués, 9 chacun, et regardent maintenant vers les prochaines primaires. Le Nevada, la Caroline du Sud, nous allons aussi gagner ces États, promet Bernie. La Caroline du Sud, où se trouve déjà Joe Biden, mauvais perdant, l'ancien vice-président n'a même pas attendu la fin du vote. Pour quitter le New Hampshire, il faut dire que l'ancien favori confirme sa dégringolade avec un second revers cuisant après celui enregistré dans l'Iowa. Il termine en 5e position dans le New Hampshire sans aucun délégué. Mais Biden veut encore y croire en misant sur le vote afro-américain. Ce n'est pas fini, mec, ce n'est que le début, lance l'ancien vice-président un journaliste. Ses supporters, eux, semblent beaucoup moins confiants. En 5e position, nous dit l'un d'eux, on commence vraiment à s'inquiéter.
Une semaine d'actualité donc, un magazine que vous pouvez podcaster. Vous pouvez aussi vous y abonner en tapant le nom de l'émission sur votre moteur de recherche préféré ou sur le site de la radio, www.rfi.fr, sans oublier l'application RFI 100% Radio. Bonjour Yann Mince.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. La dernière fois qu'on s'est vu, que les auditeurs ont pu vous écouter, c'était à la fin de l'année. Nous avons fait la synthèse de l'actualité de l'année 2019 ensemble. Et si l'on commençait par les primaires démocrates ?
Je trouve Bernie Sanders un peu optimiste personnellement sur
parce que la route est longue,
que c'est le début de la fin. Oui, effectivement, la route est longue et pour l'instant, Donald Trump ne sait pas encore ce qu'il doit taper chez les démocrates. Le jour où il va déchaîner sa force de frappe rhétorique, ses insultes, enfin tout ce dont il est capable, on verra. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que il y a deux hypothèses du côté des démocrates. Soit, effectivement, on prend acte, et quand je dis « on », ce sont les électeurs des primaires, prennent acte du clivage très fort dans la société américaine entre deux polarités, la polarité Trump et une polarité de gauche. Soit on revient à quelque chose de plus classique qui était d'avoir des candidats centristes capables de rassembler au-delà d'une polarité idéologique trop forte. Sanders, il incarne quand même une polarité idéologique trop forte. Il se définit lui-même comme socialiste démocratique, pas social-démocrate, socialiste démocratique. Et socialiste aux États-Unis, ça a été pendant longtemps une étiquette qui vous empêchait de rassembler au centre. Donc est-ce qu'on part du principe que maintenant la société américaine est vraiment clivée, qu'on ne gouverne plus du tout au centre ? L'hypothèse du centre, c'était plutôt Biden, mais visiblement, les électeurs le trouvent pas très percutant, pas très efficace. Ils ont plutôt donné la préférence à Pete Buttigieg, qui est un tout jeune homme, qui n'a aucune expérience de politique nationale, qui est le maire d'une ville de l'Indiana, et qui a un gros problème, c'est que il est considéré comme pas très sympathique vis-à-vis des Afro-Américains, vis-à-vis des Noirs américains. Ce qui est un gros problème. À l'inverse, Biden est considéré comme proche, en tout cas, des leaders des associations de droits civiques, etc. Donc ça va être un handicap pour Buttigieg dans la suite. Il va devoir inverser la charge de la preuve et prouver que oui, il est aussi un ami des minorités ethniques, comme on dit aux États-Unis.
Alors je m'en voudrais d'oublier de citer quelques auditeurs. Ils sont nombreux quand vous venez, ils sont nombreux en général, et en particulier quand vous venez dans cette émission. Yann Mokhtar, qui nous écoute à Richard Toll, au nord du Sénégal, qui dit que l'émission est son plat hebdomadaire et avec vous, c'est un plat de résistance. Vous voyez, c'est gentil.
C'est bien gentil.
Et vous avez aussi Jerry qui, lui, nous pose une question sur Trump. Peut-il être considéré comme l'un des pires présidents de l'histoire des États-Unis?
Ah, je pense qu'effectivement, il doit être au moins dans le top 2 ou 3. Je crois que les États-Unis ont eu des présidents un peu oubliés dans les années, début du XXe siècle, qui n'étaient pas forcément terribles. Je pense à Calvin Coolidge, des gens comme ça qui sont un peu oubliés. Mais effectivement, on peut dire que Trump est probablement un des pires, et probablement en lien avec ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que c'est un candidat très polarisateur, qui a tendance à diviser le pays en deux, à dresser une moitié du pays contre l'autre. En ce sens-là, il est assez divergent par rapport à la tradition politique américaine et inquiétant sur le plan social, parce que si on a un pays très polarisé, on peut avoir tout un tas de déchaînements d'hostilité, voire de violence dans le pire des cas.
Partons maintenant en Syrie, Yann, pour évoquer la situation à Idlib, le dernier bastion djihadiste, avec des tensions sérieuses entre la Turquie et la Russie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé mercredi de frapper partout, dit-il, le régime syrien en cas de nouvelle attaque contre les forces turques, au moment où l'escalade des tensions donnait lieu à des échanges tendus, c'est le moins qu'on puisse dire, entre Ankara et Moscou. Sami Bouhelifa nous a tout expliqué ce jour-là.
Depuis le début du mois, l'armée turque et l'armée syrienne se rendent coup pour coup. Damas a ouvert les hostilités. Les troupes de Bachar al-Assad ont pilonné les positions turques dans la province d'Idlib, tuant plusieurs soldats. Très vite, Ankara a renforcé sa présence en territoire syrien, déployé ses forces commando et riposté violemment, faisant à son tour des victimes parmi les soldats du régime de Damas. Ces affrontements sur le terrain se sont répétés à plusieurs reprises et le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est montré menaçant. Il a affirmé être déterminé à maintenir la présence de ses troupes en Syrie. Et c'est dans ce contexte de vives tensions qu'un hélicoptère de l'armée syrienne s'est écrasé ce mardi. À ce sujet, Ankara nie toute responsabilité. Mais selon des militants de l'opposition syrienne contactés sur place, ce sont les rebelles soutenus par la Turquie qui ont abattu l'appareil. Recep Tayyip Erdogan doit en tout cas s'exprimer une nouvelle fois mercredi. La présidence turque parle dès à présent de mesures qui seront prises pour faire payer un lourd tribut au régime syrien.
Le président turc s'est effectivement exprimé, tandis que la Russie a pris position officiellement, mercredi toujours, en mettant en cause Ankara à Moscou, correspondant cette fois de Daniel Valo.
C'est le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui s'est chargé de mettre les points sur les i avec Ankara. Le président turc reproche à la Russie et au régime syrien d'avoir violé les accords de Sotchi en continuant leur offensive à Idlib. Eh bien, aux yeux du porte-parole du Kremlin, c'est la Turquie qui n'a pas respecté ses accords.
Le Kremlin reste attaché à ces accords qui imposent certaines obligations aux parties prenantes. En particulier, la Turquie s'engage à assurer la neutralisation des groupes terroristes concentrés à Idlib. Et aujourd'hui, nous regrettons que ces groupes bombardent les troupes syriennes et mènent des actions agressives contre les installations militaires russes. C'est inadmissible et cela va à l'encontre des accords de Sotchi.
Pour l'heure, la Russie espère encore parvenir à une solution négociée avec la Turquie. De fait, Moscou n'a pas grand-chose à gagner et beaucoup à perdre à une escalade militaire en Syrie entre le régime de Damas et la Turquie. Son objectif sera donc de parvenir à un nouveau compromis avec Ankara, mais il faudra pour cela que la Turquie accepte les gains territoriaux engrangés par Damas ces dernières semaines.
Yann, il y a eu donc ces derniers jours une vraie crise entre les deux pays, la Turquie et la Russie, mais chacun sachant jusqu'où il peut aller.
Oui, je crois que c'est surtout très vexant, très humiliant pour le président turc de voir des soldats turcs tués par l'armée syrienne. Il faut se souvenir qu'au début du conflit syrien, en 2011-2012, Erdogan pariait sur la chute de Bachar el-Assad. Il avait pris une attitude très hostile, alors que dans les années précédant le conflit, il avait plutôt des bonnes relations, en tout cas des relations cordiales avec le régime Assad. Il s'est très fort engagé contre. Mais ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que les opposants à Bachar al-Assad n'ont pas réussi à le renverser. Et donc aujourd'hui, Erdogan se retrouve à gérer le fait que, ben voilà, c'est toujours Assad qui est au pouvoir. Et surtout Assad avec l'aide de la Russie et de l'Iran. Mais en l'occurrence, dans le cas d'Idlib, surtout de la Russie, à cause de l'aviation, reconquiert du terrain petit à petit. Et tout ça s'approche de plus en plus de la frontière turque. Et surtout, ça repousse de plus en plus de gens, des Syriens qui sont réfugiés à Idlib, vers la frontière turque. Or, un des gros problèmes aujourd'hui de Erdogan, entre mille autres qu'il a, c'est le fait que l'opinion publique turque est de moins en moins tolérante à la présence de 3,7 millions, je crois, de réfugiés syriens sur son sol, et n'a donc aucune envie que d'autres arrivent. Or, effectivement, si le régime syrien, à terme, reconquiert Idlib, on aura quelques millions de réfugiés qui potentiellement pourrait passer en Turquie, ce dont Erdogan ne veut pas. En même temps, Erdogan n'a pas vraiment les moyens militaires d'affronter la Syrie et la Russie ensemble. Il peut affronter peut-être la Syrie, mais si elle est soutenue par la Russie, non. Je ne crois pas personnellement que Bachar el-Assad veuille reconquérir rapidement toute la province d'Idlib. Il a déjà reconquis quelque chose qui est très important pour lui, qui est la ville de Sarakib, qui est un nœud entre deux autoroutes, l'une qui va vers le nord et l'une qui va vers l'ouest, donc le pays alaouite, le pays de Bachar el-Assad. Et ça, c'était très important. Le contrôle de ces autoroutes, c'était symboliquement, concrètement, pratiquement et symboliquement très important. Est-ce qu'il veut pour autant reconquérir le reste d'Idlib tout de suite? Je n'y crois pas.
Nos auditeurs qui s'appellent Samedi Hippolyte vous posent la question, Yann, le président turc n'est-il pas en train d'installer le chaos en Syrie? Il nous écoute au centre du Bénin, à Passagon.
Non, je crois que si quelqu'un a installé le chaos en Syrie, c'est le président syrien Bachar el-Assad, en faisant un massacre de sa population qui s'était soulevée, en appelant pour soutenir son régime défaillant au secours le Hezbollah libanais, la République islamique d'Iran et finalement la Russie avec tous ses moyens militaires. Donc, Erdogan, effectivement, n'a pas forcément été habile dans sa politique. Surtout, il a une obsession qui est une obsession, à mon sens, démesurée, qui est l'obsession kurde. Il a vraiment très très peur que le nord de la Syrie serve de base arrière au mouvement PKK turc, mouvement de guérilla. Et donc, il est prêt à presque tout faire là-dedans pour éviter ça. Et pour éviter, ce que je disais tout à l'heure, l'afflux de nouveaux réfugiés. Donc, dans ces cas-là, il n'est pas très habile. Sa difficulté, c'est qu'il essaye de dîner avec le diable, comme on dit. Et le diable, en l'occurrence, sur la Russie, on a toujours dit qu'il faut une très longue
avec
cuillère.
Avec une longue cuillère.
Très, très longue cuillère. Surtout quand le diable est Vladimir Poutine.
Vous signez, Yann, dans le numéro de février d'Alternatives économiques, un papier sur l'Iran. Vous faites le point sur la situation pour le moins critique de ce pays.
Oui, la situation est critique. Les Iraniens vont voter à des législatives le 21 février. Oui. Alors, législatives très contrôlées, parce qu'une bonne partie des candidats qui étaient potentiellement critiques du régime ont été invalidés par une instance qui vérifie les candidats avant qu'ils puissent aller aux urnes, le Conseil des gardiens de la Constitution. Donc, effectivement, ça va être une élection très limitée. En même temps, ça se passe sur le fond de deux phénomènes qui ne sont pas forcément liés, mais un peu quand même, qui sont les sanctions qui ont été décidées par les États-Unis depuis que Trump s'est retiré de l'accord sur le nucléaire.
Sanctions durcies, d'ailleurs.
En plus durcies au fil du temps et qui portent évidemment, notamment et principalement sur les exportations pétrolières qui sont vitales pour la survie économique de l'Iran. Et puis par ailleurs, une situation qui, liée aux sanctions, mais pas seulement, s'est dégradée au point de provoquer d'importantes manifestations depuis novembre dernier, qui ont été extrêmement violemment réprimées par le régime. Et on peut penser qu'il y a un espèce de chaudron politique qui boue là en Iran, dont l'obsession du régime, c'est de se maintenir au pouvoir, qui est prêt pratiquement à tout pour faire ça. Mais est-ce qu'il a encore la main complètement sur la situation? C'est ce qu'on va voir.
À lire donc dans votre papier dans Alternatives économiques de ce mois-ci, ce mois de février. Partons, Yann, pour la Chine afin d'évoquer le coronavirus. Tout en parlant de très graves menaces pour la planète, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a estimé mardi qu'il y avait une chance réaliste, dit-elle, de stopper la propagation dans le monde du nouveau coronavirus. Le virus, nommé désormais Covid-19, a provoqué la mort de plus de 1000 personnes en Chine continentale, c'est-à-dire hors Hong Kong et Macao. Des experts de l'OMS sont désormais sur place. Correspondance de Stéphane Lagarde.
Deux semaines auront été nécessaires pour faire accepter les membres de cette équipe dirigée par l'épidémiologiste Bruce Elward. Le Canadien avait déjà mené, on s'en souvient, la riposte contre Ebola en Afrique. Ces spécialistes viennent enquêter sur le nouveau coronavirus. Ils viennent aussi constater sur le terrain l'impact des mesures prises par le gouvernement chinois pour contenir l'épidémie. Si ces mesures fonctionnent, un pic pourrait intervenir avant la fin du mois, confie l'Américain Ian Lipkin, l'un des plus grands chasseurs de virus dans le monde, qui vient de rentrer d'une mission à Canton.
C'est une crise sans précédent et qui a un impact très important sur la vie des gens et de l'économie. Une partie des Chinois vont reprendre le travail cette semaine et la semaine prochaine. Et après, il y aura la rentrée des classes. Compte tenu des 5 à 7 jours d'incubation, et si les mesures de quarantaine fonctionnent, nous pourrons espérer un recul de l'épidémie à la fin février.
Un espoir qui ne tient que si les mesures fonctionnent, encore une fois, et parmi elles, un retour somme toute encore très partiel à la normale. Pour éviter de nouvelles contagions, de nombreux salariés à Pékin ont été invités à travailler depuis la maison. Et pour ceux qui doivent se déplacer, les restrictions à la circulation ont été élevé, de manière à éviter les transports en commun. Les médias d'État signalent ce lundi une baisse de 50% de la fréquentation du métro.
Stéphane Lagarde à Pékin, donc au début de la semaine. Alors, il y a une crise sanitaire d'évidence, il y a une crise politique. Il y a eu des sanctions cette semaine contre des responsables chinois, des responsables locaux et crise économique aussi. Certains le redoutent.
Sur la partie crise sanitaire, je dirais pas grand chose, que je suis trop incompétent.
Vous n'êtes pas chasseur de virus.
Pas du tout, je suis pas chasseur de virus. Et je suis frappé par le fait que les chiffres ont fait un bond cette semaine, parce que tout d'un coup.
Nous étions hier vendredi à 1400 victimes.
Les chiffres ont bondi non pas parce que tout d'un coup, les malades étaient plus nombreux selon les critères anciens, mais parce qu'on a changé de critères, j'ai bien compris, pour évaluer le nombre de malades. On a donné des symptômes un peu différents, je crois. Et évidemment, si on change le critère, on change l'instrument de mesure et donc on a obtient une mesure différente. Sur le plan politique, ce qui est frappant, c'est que Xi Jinping a mis beaucoup de, le numéro un chinois a mis beaucoup de temps à apparaître dans cette histoire. Il a laissé les autres se dépatouiller avec le dossier. Il est arrivé un peu en retard. Je pense qu'il est bien conscient que la colère de la population est très importante. On l'a vu quand le médecin lanceur d'alerte est mort et qu'il y a eu sur les réseaux sociaux chinois une grande effervescence. Donc il sait qu'il ne faut pas non plus... on peut être le patron d'un régime très autoritaire. Hein. Quand on a 1,3 milliard de citoyens, on ne peut pas les contrôler, même avec des moyens de répression très importants. Donc effectivement, si la colère est très diffuse, elle peut se retourner contre le numéro 1 chinois. Et sur le plan économique, pour l'instant, c'est un peu difficile d'évaluer. J'ai vu que le FMI, la Commission européenne, pour l'instant, sont relativement prudents. Ce qui est sûr, c'est que pour l'économie chinoise, ça va être compliqué. Les Chinois, enfin la Banque centrale chinoise a des réserves, elle a déjà sorti une partie pour compenser les premières difficultés. À terme, il faudra voir effectivement si les entreprises chinoises ou étrangères installées en Chine ne peuvent plus tourner parce qu'il n'y a plus les salariés, parce qu'on ne peut plus importer le matériel. Là, ça va prendre une autre ampleur. J'ai l'impression qu'il est encore un petit peu tôt pour évaluer l'impact.
Sept jours dans le monde.
Et nous allons nous rendre en Europe maintenant, Yann Mince, en Allemagne. Allemagne où la vie politique n'est plus ce qu'elle était, notamment du côté des conservateurs de la CDU, le parti de la chancelière Angela Merkel, qui n'a plus de dauphine désormais. À Berlin, Pascal Thibault.
AKK KO. Le quotidien Bild Zeitung résume en abrégé la situation. Annegret Kramp-Karrenbauer annonce 14 mois après son élection à la tête de la CDU sa démission de la présidence du parti chrétien-démocrate. Elle renonce également à une candidature à la chancellerie en 2021 pour succéder à Angela Merkel, dont elle était la dauphine. Bien sûr, cette décision, malgré la surprise qu'elle crée, est liée au séisme politique de la semaine dernière, lorsqu'un patron de région en Thuringe a été élu avec les voix de l'extrême droite. AKK n'a pas réussi à faire rentrer dans le rang la fédération locale de la CDU. Son autorité déjà bien égratignée a encore un peu plus souffert. Le parti est aujourd'hui plus divisé que jamais sur l'attitude à adopter à l'égard de l'extrême droite. AKK a commis des erreurs, sa popularité est au plus bas et les résultats dans les sondages comme lors de scrutins intermédiaires de la CDU ont été mauvais depuis un an. Le conservateur Friedrich Merz, comme le ministre de la Santé Jens Spahn, 39 ans également plus à droite, sont évoqués pour succéder à Annegret Kramp-Karrenbauer, un candidat plus centriste et donc plus consensuel. Le président de la Rhénanie du Nord-Westphalie, Armin Laschet, pourrait à terme s'imposer.
Nous allons revenir sur la situation politique en Allemagne dans un instant, mais partons maintenant pour le Liban où la crise politique continue dans le pays. Les manifestations se poursuivent et le pays doit faire appel au FMI. Beyrouth mercredi, reportage de Chloé Doma.
Sous la pluie, des restes de bombes lacrymogènes et des vitrines défoncées témoignent des affrontements de la veille. Dans une ruelle proche du Parlement, Jasmine cuit des galettes de thym qu'elle distribue aux passants. Mardi, cette étudiante était l'une des premières à bloquer les routes pour empêcher les députés de voter la confiance au nouveau gouvernement.
On ne fait pas confiance à ce nouveau gouvernement. C'est un produit du système confessionnel que l'on essaie de combattre. C'est fou qu'ils n'entendent pas notre voix. Tout ce qu'on fait depuis 140 jours, ils s'en fichent.
À quelques pas de là, sous une tente, Halima espérait elle aussi faire annuler le vote. Cette infirmière d'une quarantaine d'années est venue du Akkar, à 100 km de Beyrouth, pour manifester.
Il faut lui donner une chance. Je suis avec les révolutionnaires, mais on lui donne 3 mois. Sinon, on va reprendre. Mais je suis contre la violence. Notre mouvement doit rester pacifique.
Premier défi pour les nouveaux ministres, redresser l'économie du troisième pays le plus endetté au monde.
Alors parlons de l'Allemagne, Yann, où la CDU n'a plus de leader.
Non, j'ai pas l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression que, de toute façon, AKK, puisque c'est son surnom, avait soulevé un enthousiasme délirant dans le parti. Cela dit, on lui reproche son manque d'autorité. Je trouve ça un peu étrange, parce qu'en fait, c'est un clivage idéologique ou tactique. Une partie de la CDU est sensible au fait qu'il faut essayer, classiquement, comme on l'a vu en France, dans d'autres partis, essayer de ramener les électeurs de l'extrême droite vers la droite, et pour ça, faire un pas idéologique vers eux, c'est-à-dire glisser à droite. Et une autre partie se tient à la tradition, je dirais pas centriste, mais un centre droit en tout cas de la CDU, qui est de dire ce social-là, on ne transige pas, on ne négocie pas avec l'extrême droite. Une autre chose qui me frappe, c'est que on met beaucoup l'accent sur la CDU, mais le candidat qui avait été élu en Thuringe et qui a fini par démissionner n'était pas un candidat CDU, il était élu avec le soutien de la CDU, mais c'était un candidat du FDP, un parti libéral, donc quelqu'un qui, un parti dont on pensait qu'il était beaucoup plus centriste, quelque part, entre la CDU et le SPD, se démocrate pendant longtemps. Et là, on s'aperçoit que le FDP lui-même, ce parti centriste, libéral, etc., qui semble plutôt sympathique longtemps à beaucoup de gens, en fait, est en train de glisser lui aussi vers l'extrême droite. La question, c'est toujours la même chose.
Et l'extrême droite en Allemagne résonne.
Une résonance historique forte. Oui. Mais même si on oublie cette résonance-là, qu'est-ce qu'une classe politique qui ne veut pas l'extrême droite fait? Est-ce qu'elle fait un cordon sanitaire et auquel cas le pays se clive ou risque de se cliver entre l'extrême droite et tous les autres? Ou bien est-ce qu'on essaie d'avoir des clivages entre la droite et la gauche? Là, pour l'instant, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas notamment parce que je pense que les sociodémocrates allemands ne savent plus très bien où ils sont. Ils sont contestés par les Verts, qui sont plutôt en bonne position.
Comme tous les sociodémocrates, d'ailleurs.
Et par la gauche de la gauche, qui s'appelle Die Linke, la gauche, en fait, en Allemagne, qui avait, en fait, remporté le plus de sièges en Thuringe. Donc, effectivement, on a un paysage morcelé et une société politique allemande qui est un peu déboussolée face à l'extrême droite.
Alors, Yann, puisque nous parlons de l'Europe, il faut dire un mot quand même de la victoire du Sinn Féin en Irlande, parti nationaliste, parti historique.
Oui, et en même temps...
Dans le contexte du Brexit.
Oui, en même temps, c'était un parti, et c'est ça qui est surprenant, qui n'était pas populaire jusqu'ici en République d'Irlande. C'était un parti qui était populaire dans la communauté catholique, pas toute, mais quand même la communauté catholique d'Irlande du Nord, donc la partie sous contrôle britannique, mais pas vraiment de l'autre côté de la frontière. On a toujours pensé que les gens de la République d'Irlande étaient extrêmement sympathiques face à la lutte de leurs frères de l'autre côté de la frontière, mais en fait, pas par rapport au parti. Visiblement, en Irlande, République d'Irlande, le Sinn Féin s'était vu comme un parti de gens armés, potentiellement
dangereux,
etc. Proche de l'IRA, et qui s'était servi pendant tous les événements de la guerre civile de la République d'Irlande comme base d'arrière pour mener ses actions armées en Irlande du Nord. Et là, il a changé d'image. Le conflit nord-irlandais est pour l'instant, en tout cas, en sommeil depuis une vingtaine d'années. Et donc, ça veut dire qu'on a là une génération de jeunes Irlandais pour qui c'est un parti de gauche et pas le parti de la lutte armée.
Mais ce qui est notable, c'est de considérer que ce parti est pour la réunification de l'Irlande dans ce contexte de Brexit.
Bien sûr. Après, il faut bien voir, il a eu un succès, mais un succès très relatif. En fait, on a trois grands partis, les deux partis de centre-droit classique et le Sinn Féin, qui ont à peu près le même nombre de parlementaires. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas en état de mener seul une coalition. Il faudra qu'il s'allie avec des gens qui, eux, ne seront pas forcément favorables à une réunification, autrement peut-être de façon rhétorique.
Une semaine d'actualité.
Merci de votre fidélité. Nous continuons notre revue des principaux événements de la semaine et nous allons parler de la France maintenant avec une bonne nouvelle. Elles sont suffisamment rares pour ne pas y insister. La confirmation cette semaine de la baisse du chômage selon l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques, Patricia Lecomte.
Les chiffres de l'INSEE viennent confirmer ceux de Pôle emploi publiés fin janvier qui annonçaient un recul du nombre d'inscrits sur plusieurs trimestres consécutifs. Après l'annonce il y a quelques jours d'une hausse du nombre des créations d'emplois l'an passé, les chiffres de l'INSEE montrent une forte baisse du chômage en recul de 0,7 points sur un an. La France, hors Mayotte, comptait 2 424 000 chômeurs fin 2019. Les premiers bénéficiaires de cette baisse sont les seniors, avec un recul plus important au dernier trimestre. Pour le chômage de longue durée, c'est-à-dire depuis au moins un an, là aussi, le taux baisse avec au total 965 000 chômeurs de moins. Le temps partiel est également en recul sur l'année. Seul point noir, le chômage des 15-24 ans, qui plafonne à 20%. La qualité de l'emploi s'améliore également. Le nombre d'embauches en CDI, contrat à durée indéterminée, augmente autant que celui en CDD, contrat à durée déterminée, voire même plus pour ceux à temps complet que ceux à temps partiel. Autant de points nouveaux et positifs qui font dire à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, que l'objectif de 7% à l'horizon 2022 semble de plus en plus atteignable.
Cette fois, c'est sûr, Emmanuel Macron s'est converti à l'écologie, c'est du moins ce qu'affirme l'Élysée. La preuve, dit-on, le président a pris de la hauteur en montagne à Chamonix pour parler environnement. Envoyé spécial Valérie Gass.
Emmanuel Macron est allé constater par lui-même les dégâts du réchauffement climatique. Accompagné de spécialistes, le président a passé environ 1h30 sur place. Une mise en situation pour un chef de l'État en tenue de ski bleu-blanc-rouge et en chaussures de montagne, auquel le glaciologue Luc Moreau a montré les effets du dérèglement climatique.
Et donc depuis 200 ans, le glacier a reperdu 200 mètres et 3 km de longueur. Mais depuis 30 ans, 1 km.
Une accélération.
Une situation inquiétante qui a un impact fort sur la faune et la flore, mais coup de chance, un animal est apparu.
Celui-là, il est pour vous.
Passé cet intermède, Luc Moreau a expliqué les enjeux à Emmanuel Macron.
Vous, votre travail, forcément, il n'est pas sur le temps court. Malheureusement, vous ne le verrez pas pendant votre mandat. C'est des décisions que vous allez prendre.
C'est très juste. Des gens c'est le rapport au temps long et à l'histoire. Et on voit d'ailleurs à quel point les non-décisions d'il y a longtemps conduisent à ça.
L'homme a réussi à modifier l'atmosphère, c'est incroyable. Donc réparons, modifions à l'inverse.
En nous adaptant de manière constante.
Dans un discours qu'il a prononcé ensuite à Chamonix, Emmanuel Macron l'a affirmé comme pour prendre un engagement, il y a urgence à agir.
Restons un instant en France, Yann, à Paris, pour revenir cette fois sur le jugement en appel qui a aggravé la condamnation de Théodorin Obiang dans l'affaire des biens mal acquis, Laura Martel.
C'est la sanction financière que la Cour d'appel a alourdie en transformant l'amende de 30 millions d'euros avec sursis en 30 millions fermes. Elle a sinon confirmé la condamnation de première instance pour ce qui est de la prison et de la confiscation des biens de Théodorin Obiang en France, estimée à 150 millions d'euros. Après plus de 11 ans de procédure, William Bourdon, avocat de l'ONG Transparency International, salue un jugement historique dans un procès emblématique.
C'est une étape de plus dans un marathon judiciaire qui a été long et qui promet de l'être encore. Mais c'est une étape importante, c'est un signal fort et puissant adressé à ceux qui considèrent que la culture d'impunité est le moyen indispensable pour organiser et maintenir un système de prédation des ressources publiques en Afrique ou ailleurs. Mais enfin, nous nous préparons évidemment à l'annonce d'un pourvoi devant la Cour de cassation. Et s'agissant de Théodorin Obiang, sans crainte d'être ridicule, il est vraisemblable aussi qu'à un moment ou à un autre, il saisisse le juge qu'il adore le plus, le juge des droits de l'homme, je veux dire la Cour européenne des droits de l'homme qui siège à Strasbourg.
Les avocats de Théodorin Obiang n'ont pas souhaité réagir. L'ambassadeur de Guinée équatoriale a lui seulement indiqué que ce serait à son gouvernement de tirer les conséquences de cette décision. La Guinée équatoriale et la France ont déjà rendez-vous la semaine prochaine devant la Cour internationale de justice pour trancher sur le statut de l'hôtel particulier parisien acquis par Théodorin Obiang et que Malabo présente comme des locaux diplomatiques.
On peut commencer avec ça, Yann. Vous avez un commentaire à faire sur cette aggravation, sur ces biens mal acquis?
30 millions fermes, ça me paraît plutôt mieux que 30 millions avec sursis. C'est plus clair, en tout cas, comme condamnation. Ce que je ne sais pas, c'est parce que je ne l'ai pas entendu dire, et c'est est-ce que Théodorin Obiang va se pourvoir en cassation ou pas. Ce ne serait pas complètement étonnant. Puis, en général, ce genre d'individu est assez plaideur. Non, je crois que le régime de Guinée équatoriale, c'est un scandale complet. On a un taux de pauvreté extrêmement élevé dans un tout petit pays assez peu peuplé et qui a beaucoup de pétrole. C'est l'incarnation de la honte, en fait.
Alors, autre information plutôt réjouissante en France, c'est la baisse du nombre de chômeurs qui se confirme de mois en mois. Et ça me fait penser à la une d'Alternatives économiques là, cette semaine. Les jeunes sont-ils sacrifiés?
Oui, on a voulu faire un focus sur les jeunes, savoir si effectivement ils sont dans une situation plus désespérante que leurs aînés au même âge, notamment alors parce qu'en termes de précarité de l'emploi, c'est certain que pour beaucoup d'entre eux, au moins ils commencent leur carrière dans des conditions plus précaires. En fait, ce qu'on s'aperçoit quand on regarde les chiffres, c'est que les jeunes ne constituent pas du tout une catégorie homogène et qu'en fait, évidemment, pour un jeune diplômé, par rapport à un jeune diplômé d'il y a 30 ans ou 40 ans, l'entrée dans le monde du travail est plus difficile, oui. C'est plus étroit, des contrats précaires, des CDD, etc. On le voit y compris pour nos jeunes confrères journalistes. D'ailleurs. En revanche, ça s'améliore au bout de quelques années. C'est beaucoup plus compliqué pour les jeunes des milieux populaires, les gens qui ont peu de qualifications, notamment parce que les emplois très peu qualifiés ont disparu. de notre monde économique. On a moins besoin de ces emplois-là parce que l'automatisation fait qu'ils sont moins nombreux. Et du coup, ces jeunes gens qui ont peu de diplômes, pour des tas de raisons liées à leur histoire familiale, au fait qu'ils n'ont pas de capital culturel, que l'école n'arrive pas à compenser les inégalités de naissance, ces gens-là, effectivement, ont beaucoup plus de difficultés à s'insérer. Et on voit bien aujourd'hui qu'une des façons de s'insérer, et ça nous raccroche un peu avec la question du chômage, ce sont tous ces emplois d'auto-entrepreneurs qui, en fait, sont des salariés déguisés en bonne partie, tous ces livreurs qu'on voit en vélo dans les rues de Paris à des cadences infernales et avec des risques, à mon avis, majeurs pour leur, leur santé. Oui. C'est ce genre d'emploi-là que ces jeunes gens trouvent et qui sont contraints par les sociétés, les grandes sociétés qui les font travailler, à se déclarer en auto-entrepreneur pour ne pas être salarié et que ces grandes sociétés payent moins de cotisations. Il faut être bien conscient de ça. Quand on utilise ce genre de service, à quel système on participe? Et je crois que ça fait partie des choses qu'il faut réfléchir, pas seulement sur un plan économique, mais aussi sur un plan simplement éthique.
Emmanuel Macron à la montagne cette semaine, après avoir tenu le 4e Conseil de défense écologique mercredi.
J'étais frappé par ce que lui disait le glaciologue, qui lui disait « vous ne verrez pas l'effet de vos décisions sur votre mandat ».
Le temps des politiques est le temps long.
Et le temps des électeurs aussi. J'insiste là-dessus parce que les électeurs veulent des résultats rapides. Or, il y a par définition les résultats en certaines actions, ils ne se voient pas au bout de 4-5 ans, encore moins au bout de 100 jours ou d'un an, qui sont qui est vraiment le temps médiatique du coup, et qui est le temps dans lequel je redoute toujours que les électeurs s'inscrivent parce qu'on peut pas juger un homme politique et un mandat et la réussite d'un mandat sur simplement 4 ou 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, même c'est beaucoup plus long que ça, surtout sur un domaine comme la biodiversité. Je crois comprendre que le président y était pour installer institutionnellement le nouvel office français de la biodiversité, qui est une gageure toujours, administrative ou organisationnelle. Pourquoi? Parce que il a fusionné deux offices qui n'avaient rien à voir, un sur la chasse et un sur la protection de l'environnement. Et on sait bien que pour les entreprises comme pour les administrations, il y a des cultures, des façons de travailler, des états d'esprit, et que les rapprocher et les faire travailler ensemble, c'est compliqué. Cela dit, la biodiversité, c'est un enjeu majeur et on aura à la fin de l'année, et nous avions consacré d'ailleurs dans Alternative économique, un article à ce sujet, une grande conférence sur la biodiversité en Chine pour faire le bilan de ce qui a été fait depuis une dizaine d'années, et c'est pas très brillant malheureusement.
Alors l'actualité française, on va s'y attarder encore un petit peu, c'est aussi la poursuite des manifestations à l'hôpital, hein, qui se portent mal et le personnel est toujours aussi en colère. Et toujours à Paris, et là cette fois pour les municipales, la renonciation de Benjamin Griveaux à sa candidature parce qu'une vidéo à caractère sexuel le mettant en cause a été diffusée sur le web. Décision brutale.
Oui, je suis un peu étonné, surpris, voire choqué par cette histoire. Pour ce que j'en sais, en tout cas, au moment où je m'exprime, c'est-à-dire que visiblement, Benjamin Griveaux aurait fait circuler une vidéo à caractère totalement privé à une personne qu'il connaît. Cette vidéo a été publiée par quelqu'un sur les réseaux sociaux et tout d'un coup, ça lui est reproché. J'ai pas de sympathie particulière pour Benjamin Griveaux, mais c'est un candidat désigné par un parti de façon tout à fait normale. Sa vie privée et ce qu'il regarde avec ses amis IES sur des écrans, ça ne me regarde absolument pas tant que ça n'a pas d'implication dans la vie publique. On serait tout à fait dans une autre hypothèse s'il s'agissait de harcèlement sexuel, chose que ça, à ma connaissance, ce n'est pas du tout ça. On reproche à quelqu'un sa vie privée sans impact sur la vie publique. Là, vraiment, je suis extrêmement choqué par le fait qu'il se soit senti obligé de démissionner, de renoncer à sa candidature plutôt. Mais je peux comprendre qu'on n'ait pas envie que sa famille soit exposée comme
ça. C'est pour ça qu'il a pris cette décision.
Oui,
c'est,
je le comprends très bien dans l'état actuel de ce que je sais. En tout cas, c'est pour ça. Et ça me paraît extrêmement choquant. Légitime d'une part, de sa part, et très choquant qu'on en vienne à ce genre de règlement de compte, si je puis dire, dans le monde politique.
Oui, justement, drôle de climat quand même.
Oui, drôle de climat.
Sans parler des attaques de permanence de candidats dans toute la France, cette fois, drôle de climat.
Si je fais une comparaison avec une histoire un peu plus ancienne, qui était Mazarine Mitterrand, la fille de François Mitterrand, qu'il avait eu d'une relation extra-conjugale, comme on dit. Pendant des années, visiblement, je n'en étais pas, mais parce que je ne suis pas un journaliste politique de politique intérieure, mais pendant des années, les journalistes de politique intérieure française savaient très bien, beaucoup de gens savaient, mais ça n'a pas été jeté sur la place publique, parce qu'il y avait alors c'est peut-être du corporatisme, on pourra me reprocher ça, parce que les journalistes ont fait un filtre, ils ont considéré que les rédactions des journaux, des radios, des télés ont considéré que même s'ils le savaient, ils n'avaient pas en parlé, parce que ça n'avait pas de lien avec la vie publique de François Mitterrand. On peut discuter sur des aspects mineurs, parce qu'il a quand même utilisé des fonds publics pour cette famille parallèle, mais bon, disons que c'est mineur. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, n'importe qui a une information venant d'on ne sait où, éventuellement fondée, la balance considérant que c'est un élément de règlement de compte légitime, ce qui ne me semble pas le cas.
Mais alors à quoi servent les journalistes ?
Le problème, les journalistes servent quand ils sont écoutés, entendus, respectés. Peut-être que nous ne sommes pas assez entendus, écoutés, parce que nous ne sommes pas assez respectables du point de vue de la qualité de l'information que nous transmettons. Mais j'ai pas le sentiment, pour l'instant, pour ce que j'en vois, que la plupart de ce que je regarde, en tout cas sur les réseaux sociaux, soit éminemment plus respectable du point de vue de la véracité et de la vérification de l'information et du sens de l'intérêt public que, disons, la plupart des médias.
Nous écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous écrire. Je salue aujourd'hui Daouda qui nous écoute à Port-Gentil, Issouf à Koudougou, Mohamedou à Marois, un salut à Adamou Fousseni à Lomé, à Arthur Ulrich à Yaoundé, à Zanga Abdoulaye à Sikasso au Mali. Enfin, bonjour à Gallo à Dakar.
Une semaine d'actualité.
Yann, partons pour l'Afrique maintenant, ce continent que nous aimons tous. Les Camerounais ont voté dimanche pour la législative sans enthousiasme apparent dans un pays au pouvoir contrôlé depuis près de 4 décennies par le président Paul Biya et en proie, on le sait, à de sanglants conflits dans l'Ouest anglophone et dans l'extrême Nord. Reportage de notre envoyé spécial Florence Maurice le jour du vote à Douala.
15h au lycée Sainte-Agnès de Douala. À l'entrée d'un bureau de vote, une représentante du parti au pouvoir, visage dans les mains, affalée sur un petit bureau. Ici, à 3h de la fin du scrutin, seuls 10% des inscrits ont voté, selon le président du bureau.
C'est la première fois qu'on voit une telle participation. Vu qu'il y a beaucoup de partis qui ont lancé le mot d'ordre de boycott, c'est ça qui influence.
On attend les électeurs.
Même affluence timide au lycée Bépanda, mais Armel, chef d'entreprise de 28 ans, est fier, lui, d'avoir accompli son devoir citoyen.
Il fallait impérativement que je sois là. Certains partis politiques pensent que le mieux pour le pays serait le boycott. Or non, s'il faut que les choses changent, il faut bien que les gens choisissent leurs élus locaux.
À l'extérieur du centre de vote, Daniel participe à un match de foot mais promet d'aller voter plus tard. Il veut croire qu'avec la nouvelle loi de décentralisation, les maires auront plus de marge de manœuvre pour améliorer le quotidien des populations.
Donc on espère que cette fois-ci, ça sera effectif. Il faut tout changer, on n'a pas de l'eau, on n'a pas des routes, on n'a pas plein de choses, il faut les hôpitaux. Enfin, les conditions de vie, c'est ce qu'on pense que ça va changer cette fois-ci, avec la décentralisation qui arrive.
Pour Viltran, en revanche, assis juste à côté, pas question d'aller voter en raison du conflit en zone anglophone.
On ne pourrait pas voter quand nous sommes dans une guerre. On ne pourrait pas laisser nos frères mourir au nos os et se dire qu'on va se lever pour aller voter. Non, il faudrait que ça change.
Au même moment, la police qui a sillonné Douala toute la journée intervient pour mettre fin au match de foot et suspendre au maximum toute activité le temps du scrutin.
Et les résultats sont à suivre évidemment dans nos journaux. Revenons maintenant sur le sommet de l'Union africaine qui s'est achevé lundi à Addis Abeba. L'Union africaine qui est présidée pour un an par l'Afrique du Sud. Que faut-il en retenir ? Karine Franck a suivi ce rendez-vous diplomatique.
Tout d'abord, les premiers mots de Cyril Ramaphosa à la tribune. Nous allons concentrer notre travail sur la résolution des conflits. Le président sud-africain annonce 2 sommets au mois de mai à Pretoria, le premier sur la sécurité, le second sur la zone de libre-échange continentale. Autre temps fort, la colère de Moussa Faki, le président de la Commission, sur l'absence de solidarité des pays africains envers les États menacés d'effondrement sous les coups des djihadistes. C'est déconcertant, a-t-il lancé au chef d'État présent devant lui. Troisième moment important, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, déclare à Addis Abeba son soutien à l'initiative africaine sur la Libye. L'idée d'organiser un grand forum de réconciliation fait son chemin. En revanche, les questions de droits de l'homme et de démocratie ont été à peine évoquées, pour ne pas dire passées sous le tapis. La question du 3e ou du 4e mandat est pourtant au cœur de plusieurs élections présidentielles en 2020.
Yann Mins, le Cameroun a donc voté, les résultats sont à suivre dans nos journaux, mais c'était déjà un événement.
Oui, c'est un événement. Après, moi, je suis toujours un peu partagé sur les boycotts. Je comprends la position de partis qui disent les dés sont pipés. Si on participe, effectivement, on légitime un scrutin qui n'est pas régulier, qui n'est pas équitable, etc. En même temps, si on boycotte, on abandonne les électeurs au parti, au pouvoir, globalement, en l'occurrence. Donc, j'ai pas d'opinion tranchée, je pense que c'est du cas par cas, mais à chaque fois que j'entends, notamment en Afrique, parce que ça arrive régulièrement en Afrique, effectivement, que des opposants disent on va boycotter les élections, je suis toujours un peu hésitant à savoir si je partage leur avis ou pas vraiment. Maintenant, on est dans le cas du Cameroun, effectivement, sur un régime autoritaire qui, en tout cas, avec des caractéristiques de corruption importantes, qui s'éternise, qui n'en finit pas. Et par ailleurs, avec ces violences dans différentes régions, qui fait qu'effectivement, c'était à peu près impossible d'organiser le scrutin dans beaucoup d'endroits. Donc la question, c'est effectivement, est-ce qu'il fallait même organiser un scrutin? Mais si on n'organise pas le scrutin, ça veut dire qu'on laisse en place les institutions en place, y compris au niveau local, avec tous les risques que ça implique. Il va falloir trouver d'une façon ou d'une autre une voie de négociation, de dialogue entre, peut-être pas les mouvements eux-mêmes, mais en tout cas les populations anglophones en colère et le gouvernement de Paul Biya.
Réunion de l'Union africaine, la routine en quelque sorte?
Oui, encore que il y a cette question, il y a ce double appel, d'une part à la solidarité avec les pays du Sahel, et puis la question de la Libye. C'est un vrai caillou dans la chaussure de beaucoup d'organisations internationales, beaucoup des pays étrangers. Ce dont je doute un peu, c'est que l'Union africaine ait les moyens d'avoir prise, d'une façon ou d'une autre, sur les immigrations étrangères. Alors évidemment, mieux que quand c'était l'Égypte qui présidait l'Union africaine, puisque l'Égypte est directement impliquée dans le conflit libyen avec le général Haftar. Donc peut-être un peu mieux. Mais en même temps, les pays étrangers qui interviennent le plus puissamment aujourd'hui en Libye, ce sont outre l'Égypte, les Émirats arabes unis, et là-dessus l'Union africaine n'a absolument aucune prise, la Turquie récemment, et la Russie, dont on ne sait pas très bien de quel côté elle intervient, mais qui intervient aussi. Sur tous ces acteurs-là, je ne vois pas que l'Union africaine ait beaucoup de prise.
Alors parlons maintenant, Yann, d'un retour important et pour le moins symbolique, celui de l'armée malienne à Kidal, le fief, on le sait, de l'ex-rébellion. Je vous propose d'écouter ce reportage de Coralie Pierret hier à Bamako.
Sur le plan politique, le retour de l'armée malienne est tout un symbole. Car à Bamako, l'échec de l'offensive sur Kidal lancée par les FAMA en 2014 est resté dans toutes les têtes. Depuis, la ville a totalement échappé à l'État et est contrôlée par une coalition de groupes armés, la CMA. Un retour de l'armée symbolique donc, qui est le fruit de longues négociations. L'article 21 de l'accord de paix d'Alger signé en 2015 prévoyait déjà le redéploiement des forces de défense et de sécurité dans toutes les régions du Nord. 5 ans plus tard, 240 hommes, des éléments de la CMA, de la plateforme, un autre groupe armé loyal au pouvoir central, et des forces régulières sont désormais installées dans leur camp militaire de Kidal. Maintenant, il faut espérer que le processus se poursuive, analyse le sociologue Mahamadou Diouara. Il faudra également lancer le retour de l'administration qui, elle aussi, devra être sécurisée, poursuit-il. 188 éléments devraient rejoindre les soldats déjà sur place. Aucune date d'arrivée n'a été précisée pour le moment.
Direction la Guinée maintenant, Yann, et mercredi de nouvelles manifestations contre le projet de nouvelle constitution, alors que les Guinéens sont appelés à se prononcer sur le texte le 1er mars prochain, tout en élisant d'ailleurs leurs députés. Reportage à Conakry de Carole Valade.
Les quelques attroupements à Wanindara, Matoto ou Kaloum sont finalement dispersés par les forces de l'ordre. Pour le reste, Conakry prend des allures de ville morte. Les principaux marchés tournent au ralenti. Sur la route Le Prince, la plupart des boutiques ont baissé le rideau. Dans le quartier de Bambeto, réputé favorable à l'opposition, la colère reste intacte.
Il est venu avec la constitution qui n'est pas bonne. Il doit partir avec la constitution qui n'est pas bonne. Troisième mandat. Ça ne fait pas en Guinée.
Un peu plus d'activité du côté de l'autoroute, mais rien à voir avec l'habituelle effervescence. En proche banlieue, les habitants expriment une certaine lassitude.
Les gens de FMDC aussi. Et chaque jour, il n'y a que les pagailles. Si ce n'est pas les pagailles, c'est du pagaille. Nous, on a la marre de ça.
Dans les commerces, les clients se font rares.
La ville, tout s'est paralysé. Il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas vu, il y a la grève partout. La Guinée, on vit mal à l'air là.
Le président avec les opposants doit s'entendre et s'asseoir et négocier sur la table parce que
La grève, c'est pas bon. Hein.
Le gouvernement déplore des actes de vandalisme, des barricades, de l'huile de vidange sur la chaussée. Le FNDC, quant à lui, compte 15 blessés, dont un par balle, les autres par des projectiles, notamment de lance-pierres utilisés par les services de sécurité, ainsi que des arrestations.
Yann, terminons cette édition d'une semaine d'actualité en parlant du Mali, donc, et ce retour symbolique de l'armée malienne à Kidal.
Oui, enfin, de l'armée et puis de deux mouvements, puisque les unités qui sont rentrées sont constituées une partie de militaires de carrière et puis de parties de mouvements proches des mouvements Touareg, etc., puis le mouvement de la Zawad. Donc, on est sur des fusions un peu toujours compliquées à gérer, je pense, pour le commandement militaire, de gens qui se battaient éventuellement les uns contre les autres auparavant et qui se retrouvent tout d'un coup à faire la police ensemble, si je puis dire, puisqu'en fait l'armée va, à mon avis, plutôt avoir des tâches de police que des tâches de guerre, mais elle aura probablement aussi des tâches de guerre contre les djihadistes. En tout cas, ça veut dire que ces résultats de fusion de groupes armés, milices et militaires de carrière, c'est toujours un peu compliqué à gérer. On l'a vu au Congo. Par ailleurs, moi, ce qui me frappe sur le Mali, pour avoir eu des discussions récemment avec des gens d'Afrique de l'Ouest, et pas seulement du Mali, mais surtout du Burkina en l'occurrence, c'est tous ces fantasmes complotistes qui se développent aujourd'hui sur la France.
Et sur l'inefficacité des forces françaises, enfin, supposées.
Sur une efficacité qui serait délibérée. Ce que je veux dire, c'est que il y a des gens en Afrique de l'Ouest qui ne comprennent pas comment une armée comme l'armée française, qui est censée être une armée puissante, a pu en 2012 venir à bout et des djihadistes qui avaient conquis les villes de Gao, Kidal et Tombouctou, et ne peut pas aujourd'hui venir à bout de djihadistes qui sont dispersés dans les campagnes, etc., dans les forêts. Bon. Or, c'est beaucoup plus difficile pour une armée, quelle qu'elle soit, de venir à bout de guérillas rurales dispersées qui ne font pas du combat frontal, qui font des escarmouches. Quand les djihadistes étaient à Kidal, Gao, Tombouctou, ils étaient concentrés. Si je puis dire, dans termes militaires, on pouvait les bombarder à un endroit précis. Ils étaient ensemble. Quand des gens sont dispersés en mobylette partout dans les forêts ou dans la savane, c'est très compliqué d'en venir à bout, même avec des drones. Et je veux dire ici que les Africains de l'Ouest devraient s'intéresser à l'Afghanistan. Pourquoi je dis ça? On a entre 1978 et aujourd'hui, on a eu d'abord l'Union soviétique et ensuite les États-Unis à partir de 2001, qui sont des armées extrêmement puissantes, et notamment l'armée américaine, et qui n'ont pas réussi à venir à bout de ces guérillas rurales qu'étaient d'abord les Moudjahidines de l'Union soviétique, et ensuite les talibans à partir de 2001, au point qu'aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment ces jours-ci, les États-Unis sont en train de négocier avec les talibans.
Envisagement un accord. Hein.
Absolument. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils négocient? Parce qu'ils n'ont pas réussi à en venir à bout militairement. Parce qu'une guérilla rurale, souvenons-nous des États-Unis au Vietnam déjà, c'est la même chose. Donc que les Africains de l'Ouest ne s'étonnent pas qu'une armée comme l'armée française ne puisse pas venir à bout des djihadistes, du Massina, du Soum, etc., c'est très compliqué techniquement. Ça ne peut se faire qu'à une condition, que la population soit opposée activement à ces djihadistes. Ça veut dire clairement qu'elle les dénonce, ça veut dire clairement qu'elle ne participe, mais pas sous forme de milice, qu'elle laisse l'armée faire son travail. Mais ça, c'est extrêmement compliqué.
Merci Yann Mince. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives Économiques. On vous retrouve ces prochaines semaines
hein,
pour
plaisir,
continuer
le
rythme. Je rappelle qu'Alternatives Économiques de février, titre sur les jeunes sacrifiés. Les jeunes sont-ils sacrifiés? Et que vous avez écrit dans ce numéro un papier qu'il faut lire sur l'état de l'Iran aujourd'hui. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idées, celui qui interroge ceux qui pensent le monde. Et nous vous proposerons une rencontre avec un anthropologue qui analyse les relations de pouvoir aussi bien au fin fond de l'Éthiopie que dans les communes rurales en France, dans Lyon par exemple. Il s'appelle Marc Abeles. Rendez-vous demain dimanche à 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.
De blog.